Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dire le plus exhaustif possible, mais surtout vous livrer quelques clés de compréhension du problème libanais, parce qu'on n'aura pas le temps en une petite heure de tout aborder, mais je tenais à commencer cette intervention par des repères historiques et géopolitiques. Et quand on parle du Liban, on oublie souvent que le Liban, c'est le fruit en fait d'une rencontre entre la communauté chrétienne maronite, donc de la montagne libanaise, qui est une des minorités chrétiennes les plus importantes de cette région, et des communautés constitutives du Liban contemporain, et la France. Donc le Liban, tel qu'on le connaît, a 101 ans. Il a été porté par les fonts baptismaux par la France en 1920, l'État du Grand Liban. Et c'est sur les décombres de l'Empire ottoman que les maronites avaient ce projet. À la base, le Liban chrétien, c'était un petit territoire de 4000 km². C'était un territoire qui n'était pas viable économiquement. Et il y avait un débat justement au sein des élites chrétiennes du Liban. Est-ce qu'on garde cet accroupion, ou alors est-ce qu'on étend ce territoire à d'autres territoires qui sont habités majoritairement par des musulmans sunnites ou par des autres communautés, comme les Grecs catholiques, les Grecs orthodoxes notamment. Et donc, c'est la deuxième solution qui a été tranchée. Et on l'a bien vu, cette option s'est avérée funeste pour les équilibres démographiques, puisque de majoritaire, les chrétiens deviennent une majorité toute relative. Le dernier recensement en fait, officiel date de 1932. C'est dire que c'est un sujet assez sensible quand on parle des équilibres démographiques et que représente telle minorité. Mais toujours est-il que sur les décombres de l'Empire ottoman, donc à la fin de l'Empire ottoman, 1918, la fin de la Première Guerre mondiale, pardon, on a trois groupes chrétiens dans l'espace oriental, levantin et moyen-oriental, qui ont un projet d'État. On a le cas des Assyro-Chaldéens, qui sont victimes d'un génocide, on n'en parle pas assez malheureusement, mais eux aussi ils ont été broyés en même temps que les Arméniens par le gouvernement jeune turc, hein, entre 1915 et 1918. Eux, ils voulaient faire un État donc, dans le nord de l'actuel Irak, qu'on appelait la Syrie. Les Arméniens de l'État, les Arméniens de la région de la Cilicie, c'est une zone côtière au sud de l'Anatolie, où les Arméniens avaient à l'époque médiévale leur État. C'est un État qui était un peu excentré de l'Arménie historique, mais où il y avait encore une forte communauté arménienne, et ils avaient un vrai projet d'État aussi. Et les Maronites du Liban, donc, qui avaient aussi leur projet d'État. À la base, les Maronites, ils ne viennent pas forcément du Liban, ils viennent plutôt du nord de la Syrie, ils viennent de la région d'Alep. Sur ces trois projets, seuls les Maronites ont eu gain de cause, ont réussi. Et là, 100 ans plus tard, on a l'impression que cet État est vraisemblablement menacé dans son existence, menacé par des facteurs à la fois internes et externes. J'y reviendrai, mais je peux parler notamment de l'impact des réfugiés syriens. Il y a une phrase importante qui en dit beaucoup sur l'histoire du pacte libanais, puisque le pacte de 1943, c'est une année très importante pour l'historiographie libanaise, puisque c'est à la fin du mandat français où les chrétiens maronites et les musulmans sunnites, qui constituent donc démographiquement parlant deux communautés très importantes du Liban, alors qu'à la base c'était plutôt les maronites et les druzes qui avaient formé un pacte pour... ça c'est un autre sujet, mais c'est antérieur. Mais en tout cas, en 1943, les maronites et les sunnites s'entendent autour d'un pacte tacite, un pacte non écrit, en arabe, le Mithaq al-Watani, donc le pacte national, qui augure donc de tous les contours du Liban tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un président de la République maronite, un premier ministre sunnite et un président du Parlement musulman chiite. Et ce pacte, en fait, il repose sur deux idées. Hein, la première, c'est que les musulmans sunnites font le deuil du projet de Grande Syrie, puisqu'à la base, la plupart des musulmans du Liban voulaient se retrouver plutôt à l'aise à l'intérieur des frontières de la Grande Syrie. Les territoires qui leur avaient été rattachés donc étaient historiquement faisaient partie de la Syrie. Et les chrétiens maronites, notamment, renonce au protectorat de l'Occident. Donc voilà, c'est une sorte de synthèse, une sorte de formule libanaise qui est mise en place. Et en 1949, on a un très grand journaliste libanais francophone qui s'appelait Georges Nakache, qui avait joué un rôle politique très important aussi dans son pays. Il avait écrit un article dont le titre était le suivant: Deux négations ne feront pas une nation. Je répète, deux négations, la négation de l'Occident et de l'Orient. Donc, côté chrétien, ne font pas une nation. Cet article lui a valu d'aller en prison, mais c'est très, très, très révélateur, en fait, de tout ce qui ne va pas au Liban, c'est-à-dire cet échec de la construction d'un État digne de ce nom, d'un État-nation, avec des vraies structures étatiques, et pas d'un État communautaire, où le partage du pouvoir se fait au prorata des quotas des 18 confessions que compte ce petit pays. On parle d'un petit pays puisque la superficie du Liban, c'est 10 465 km², soit à peine la taille du département de la Gironde, à l'ouest, donc frontière maritime avec Chypre, la Syrie le borde au nord et à l'est, tandis qu'Israël ferme sa frontière au sud. Donc Israël et la Syrie sont deux puissants voisins qui ont joué un rôle capital dans le destin de ce pays, puis on l'a bien vu pendant la guerre. Le Liban, aujourd'hui, c'est 6,2 millions d'habitants, ce qui est énorme en termes de densité. C'est dû notamment au fait que c'est un pays qui a toujours été le refuge des minorités persécutées de la région, mais aussi du fait de l'afflux important de réfugiés palestiniens après la création de l'État d'Israël en 1948, et plus récemment, les réfugiés syriens, qui sont à peu près au nombre d'un million huit, je crois, ce qui constitue une proportion abyssale, gigantesque par rapport à la taille et aux ressources du Liban. Donc c'est un pays très densément peuplé. Il y a un contraste aussi assez saisissant entre le Liban de la côte, avec les villes de Beyrouth, mais aussi de Saïda au sud et de Tripoli au nord, qui ont toujours été des villes ouvertes sur le monde, avec des communautés, on va dire, plutôt musulmanes, sunnites et grecques orthodoxes. Et le Liban de la montagne, Liban plutôt maronite, et aussi druze, qui est une secte hétérodoxe, issue du chiisme. Donc, ces deux Libans, le Liban de la montagne et le Liban de la côte qui se tournent le dos, finalement, c'est le Liban de la montagne qui a conquis le pouvoir, puisque c'est la communauté maronite qui, progressivement, a étendu son assise donc sur les pôles économiques du pays. Pour ce qui est de la répartition communautaire, on peut dire que la principale communauté, démographiquement parlant, du pays, c'est plus les chrétiens, c'est les musulmans chiites, puisqu'à eux seuls, ils forment à peu près 35% de la population libanaise. Les musulmans chiites ont toujours été considérés comme des parias, comme une communauté délaissée, frappée de marginalisation socio-économique, et donc ils tiennent leur revanche depuis la guerre civile libanaise et surtout depuis l'invasion par Israël du Liban, avec le projet d'expulser les Palestiniens, puisque les Palestiniens avaient créé au début des années 70 une sorte d'État dans l'État. Vous avez après les Maronites, c'est un peu plus de 20%, donc les Sunnites aussi, 20%, mais encore une fois, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Le Liban vraiment connaît des bouleversements assez importants au plan démographique, une forte immigration qui touche au premier plan les chrétiens, puisque les chrétiens sont la communauté ou les confessions qui sont les plus implantées dans la diaspora. C'est les confessions qui bénéficient du nombre le plus de relais, on va dire, familiaux, professionnels, à l'extérieur. C'est aussi le cas, mais en moindre mesure pour les musulmans. Mais au total, on a 5% à peu près de druzes. Les Arméniens, c'est un peu moins d'1%. Bon, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas arabophones, bon, même si maintenant ils le parlent. Vous avez 18 communautés confessionnelles. 18 communautés confessionnelles étroitement imbriquées qui forment une mosaïque religieuse unique au Proche-Orient et qui est consécutive de la raison d'être du Liban, c'est-à-dire un État pour les minorités, un État refuge des minorités. Sauf que le problème, c'est que le fragile équilibre politique du pays repose sur le partage du pouvoir et les alliances entre ces groupes. Et ces groupes-là, ils sont essentiellement tributaires des allégeances ou de la clientèle, de la relation de clientèle qu'ils peuvent avoir avec des puissances régionales. C'est pour ça que le Liban est un pays où le consensus est toujours très difficile à obtenir, parce que vous avez toujours dans ce pays une sorte de caisse de résonance des principales crises régionales. Ça remonte déjà à la fin de l'Empire ottoman, mais on le voit très bien avec le conflit israélo-palestinien. Et puis plus tard, pendant la guerre civile, qui n'est pas vraiment une guerre civile, qui est aussi une guerre internationale, puisque le Liban est un terrain par proxy pour plusieurs puissances régionales qui s'affrontent, la Syrie, l'Israël, mais aussi l'Irak, vous avez les puissances occidentales. Tout ça fait que l'imbroglio libanais est assez difficile à saisir et à synthétiser. Je ne sais pas si ça vaut le coup, je vous parle de... voilà, oui, le Liban, donc, voilà, ça a toujours été au cœur des jeux d'influence entre grandes puissances. Et donc, vous avez une date importante qu'il faut retenir, c'est 1840. La France et la Grande-Bretagne s'affrontent pour contrôler la région et la route des Indes. Donc, les Français et les Britanniques vont nouer des alliances au Liban. Les Français vont s'appuyer sur la communauté maronite chrétienne et les Anglais sur les Druzes. Et en 1860, les Druzes massacrent des Maronites. Des Maronites, donc, parce que ils habitent la même région montagneuse qu'on appelle la montagne libanaise. Et les Maronites connaissent un surplus démographique important et beaucoup de litiges donc déchirent ces communautés. Ces massacres vont avoir une incidence importante parce que elles donnent lieu à la première intervention de la France, une intervention militaire, puisque Napoléon III envoie ses troupes donc se déployer au Liban pour protéger les chrétiens, alors que les chrétiens sont aussi massacrés à Damas. Donc c'est la première grande intervention en fait occidentale dans la région depuis les croisades. Donc c'est un événement important parce qu'il pose les bases d'un nouveau statut pour la région. À l'époque, on ne parle pas encore de Liban, on dit la montagne ou le mont Liban. Et ce statut s'appelle la Mutasarrifiyya, c'est-à-dire c'est un système unique qui prévoit un conseil de 12 membres, deux pour chacune des six principales communautés religieuses à l'époque du mont Liban. Donc les bases de l'État confessionnel, elles sont bien antérieures, je veux dire, à l'indépendance du Liban. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le confessionnalisme politique, c'est pas qu'une invention libanaise, c'est aussi une invention française et ottomane, puisque les Français ont joué un rôle important pour légitimiser pardon, ce confessionnalisme. On le voit plus tard, après 1920, donc quand la France se voit confier des mandats par la Société des Nations, donc sur les décombres de l'Empire ottoman, elle hérite de trois mandats. D'abord la Syrie, puis la Cilicie, qu'elle va plus tard rendre aux Turcs. La Cilicie, il y avait un projet pour les Arméniens. Et elle va découper la Syrie en plusieurs entités, et le Liban va émerger de cette entité, de ce découpage, pardon. Voilà, donc, pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que bon, il faut revenir en tête que c'est la France qui a joué un rôle important dans l'officialisation de ce confessionnalisme politique. Donc, je reviens à 1943, que le Liban devient indépendant donc sous la tutelle française, c'est le fameux pacte national, qui est toujours en vigueur, il n'est pas écrit, il est tacite, il définit la répartition du pouvoir entre les communautés au sein d'une démocratie parlementaire, certes imparfaite, mais une démocratie quand même, compte tenu de l'évolution des contextes dans la région, les coups d'État militaires dans les années 49 en Syrie, il y en aura eu trois, en Égypte en 54, font que le Liban est un îlot de stabilité, mais surtout de démocratie, de liberté. Et donc la plupart des intellectuels arabes qui fuient les régimes autoritaires de la région vont trouver dans Beyrouth un lieu d'expression, un lieu de modernité. Et donc le Liban, dans les années 60 jusqu'au début 70, connaît une sorte d'âge d'or parce que son modèle économique, donc basé sur les services, fait que le Liban est une sorte de coffre-fort, de banque pour les monarchies, les pétromonarchies du Golfe. La force des Libanais, justement, c'était dans cette dimension, dans ce rôle d'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Et le Liban va connaître une sorte de prospérité toute relative, je dis bien, parce que ça, c'est le côté recto de la carte postale, où on s'émerveille de voir le Liban comparé à une Suisse de l'Orient qui connaît un boom économique avec les banques, la culture, la vie intellectuelle, la vie en général, l'ouverture sur le monde. Et puis à côté de ça, vous avez des inégalités de plus en plus criantes entre les classes riches et les classes populaires. Et vous avez la question palestinienne, puisque le Liban doit composer déjà, donc dans les années 50, avec une très importante communauté palestinienne réfugiée, qui ne se voit pas accorder la nationalité libanaise pour des raisons d'équilibre démographique, puisque l'écrasante majorité de ces réfugiés sont sunnites. Donc les chrétiens voient dans cette communauté, dans ces réfugiés palestiniens, aussi une menace, existentielle, puisque jusqu'à présent, ce sont eux qui tiennent, entre guillemets, les rênes du pouvoir. Le président de la République, qui avait plus de prérogatives à l'époque des chrétiens maronites, il en était de même pour le chef d'état-major de l'armée, pour le directeur de la Banque centrale, et bien d'autres postes clés. La guerre civile, donc rapidement, alors on a très hâtivement schématisé cette guerre en affrontement entre chrétiens et musulmans. C'est tout à fait inexact, puisque c'était plutôt une guerre froide. Vous aviez des chrétiens dans les deux camps, dans le camp, on va dire, de la droite libanaise, les forces libanaises, les phalangistes, qui, elles, étaient donc partisanes de l'expulsion des Palestiniens, d'une entente avec Israël. Et donc la préservation de l'identité chrétienne du Liban comme exception en fait, dans le monde arabe. Et puis à l'inverse, vous aviez les forces entre guillemets dites palestino-progressistes, c'est-à-dire la gauche arabe, les partis de gauche communistes, nassiristes, et les Palestiniens qui eux-mêmes détenaient d'immenses prérogatives et constituaient une sorte d'État dans l'État, à telle enseigne qu'ils empiétaient dans la souveraineté libanaise, ce qui était pour les partis de droite chrétienne quelque chose d'insupportable. On le voit bien, en 1969, il y a des affrontements. Au Caire, est signé un accord entre donc les Palestiniens et l'armée libanaise, et on voit bien que l'armée libanaise recule, c'est-à-dire qu'elle. Elle accorde elle concède donc des poches, des enclaves aux Palestiniens, notamment dans les camps de réfugiés, où elle n'a pas le droit de rentrer. Et on voit bien que cet abandon de souveraineté va avoir des conséquences funestes. À cela s'accompagnent les conséquences de la guérilla intensive que mènent les Palestiniens au Liban, dans le flanc nord de la frontière avec Israël, c'est-à-dire la Palestine historique. Et cette guérilla a des conséquences funestes pour les populations civiles libanaises, parce que l'armée israélienne procède à des raids en guise de rétorsion assez intenses, assez répétées. Donc la guerre dure 15 ans. Voilà, elle est ponctuée de massacres, hein, comme les massacres de Sabra et Shatila en 82, après l'évacuation de Beyrouth des forces palestiniennes. Donc, ces deux camps palestiniens qui vont être l'objet de massacres par les forces chrétiennes, avec l'appui logistique israélien. Tandis qu'au sud, donc, les troupes israéliennes contrôlent la région du sud, entre 82 jusqu'à 2000. Et au nord et au centre, l'armée syrienne se déploie. L'armée syrienne, la Syrie, qui est le grand frère. Craint, mais est appelé à la rescousse pour protéger le Liban des Palestiniens. Donc, c'est les chrétiens qui appellent à la Syrie, mais pour la Syrie, c'est une aubaine parce que c'est une manière de revenir dans un pays dont elle n'a jamais, vraisemblablement, jamais reconnu l'amputation. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif syrien, comme dans le pouvoir de l'époque, le pouvoir d'Hafez el-Assad, le Liban, c'est la Syrie. Voilà, c'est une nation, deux États. Et donc, pour les Libanais, cette présence syrienne va se pérenniser en occupation, avec tout ce que cela peut, tout ce que ça peut, toutes les vicissitudes que ça induit. Donc, j'ai parlé des réfugiés. Alors, bon, le Hezbollah un petit peu aussi. Donc, le Hezbollah. Cette armée, ce bras armé, on va dire, chiite du Parti de Dieu, qui est la principale force politique au Liban, qui a été créée en 82, justement, lors de l'invasion d'Israël. Le Hezbollah prend en fait la relève, la suite de la guérilla palestinienne, puisque les Palestiniens sont partis. Les chiites, donc, qui peuplent majoritairement la région frontalière avec Israël, au Liban Sud, donc s'organise avec l'aide de l'Iran pour contrecarrer, pour résister à l'avancée, à l'occupation israélienne. Très rapidement, pas tout de suite, mais en quelques années, les chiites vont s'allier avec le régime de Damas, même s'ils ont beaucoup de différends entre eux et aussi des affrontements fratricides entre les deux principales forces politiques chiites que sont le Hamal d'un côté, dont le président du Parlement est membre, et le Hezbollah, qui est dirigé par le cher Hassan Nasrallah. Bon, je voudrais qu'on parle rapidement. On reviendra plus tard sur les atouts, je pense, dans les questions, les atouts du Liban, par exemple le gaz, etc. Je pense que je développerai ça plus tard. Mais je voudrais qu'on revienne sur les conditions qui ont entraîné donc l'explosion, l'insurrection populaire d'octobre 2019. Il faut savoir que le Liban, qui sort de la guerre appauvri après 15 ans de guerre en 90, Mais ça, il a perdu 150 000 hommes. Bon, l'élite s'est barrée, la part des élites ont émigré. Mais ce n'est pas un pays en ruine complètement, puisque la dette libanaise est entre guillemets de 3 milliards de dollars. Or, ce qu'on observe, c'est que le pouvoir oligarchique qui se met en place au lendemain de la guerre civile est un pouvoir constitué d'anciens chefs miliciens. Et ces chefs miliciens vont se partager, vont le payer en coupe réglée, et c'est ce qu'on appelle l'État fromagiste. Donc, ils vont se servir sur la bête pour cannibaliser cet État, qui n'est pas un État, puisqu'il n'a pas, il a des institutions très très fragiles. Et l'économie qui s'installe, qui est une économie aussi de service, une économie qui n'est pas productive, une économie de banque, va considérablement affaiblir le pays, puisqu'elle donne l'illusion en fait d'une opulence et d'un développement, mais ce développement, on verra bien qu'il ne profite pas à tous. Le pays va se surendetter, notamment sous l'égide, sous la houlette du premier ministre milliardaire libano-saoudien Rafik Hariri, donc qui gouverne le pays à deux reprises. Donc la dette va exploser, elle passera de 20% à peu près à 170% de son PIB. Donc elle devient insoutenable. Je crois qu'elle est à peu près à moins de 100 milliards de dollars de dette. Donc pour le Liban, c'est quelque chose de terrible. Et c'est un pays, encore une fois, qui produit pas. Alors, une des caractéristiques majeures de l'économie libanaise, donc qui pourtant a un potentiel dans l'agriculture et l'industrie, c'est qu'ils ont tout délaissé pour le système bancaire. Et c'est ce qui est à l'origine de la crise. C'est-à-dire que les manifestants qui dénonçaient les banques de s'être enrichis en investissant une grande partie des dépôts des épargnants, notamment l'argent envoyé par la diaspora du Golfe, d'Afrique, mais aussi du Canada, ils avaient investi dans des bons de trésor et en eurobonds à des taux très avantageux pour financer les besoins de l'État. Sauf que le système financier libanais fonctionne comme une pyramide de Ponzi. Alors, la pyramide de Ponzi, c'est quoi? Bah, c'est une expression qui est tirée du nom d'un fameux escroc italien à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. C'est un montage financier considéré comme frauduleux qui repose sur un principe simple. Les intérêts versés aux épargnants sont prélevés sur les sommes placées par les souscripteurs suivants. Pour que les recettes continuent à couvrir les engagements, il faut une croissance des souscriptions. Dès lors que celle-ci se ralentit, la cessation de paiement fait découvrir ce système de cavalerie. Et c'est ainsi qu'il y a des montages financiers complexes qui sont encouragés par la Banque centrale libanaise, qui ont permis aux banques libanaises, par ricochet, les anciens chefs du ministre convertis en dirigeants politiques, de faire des profits faramineux. Et tout cela, tous ces profits-là, ils ont été faits au détriment de l'économie réelle et des épargnants du Liban, la diaspora. Et donc le fait que le pays ne s'en sorte pas et qu'on demande une taxe sur l'application WhatsApp, qui est très répandue au Liban, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais déjà, depuis plusieurs années, depuis 2005, 2007, depuis l'évacuation des Syriens de l'armée syrienne avec la faveur de l'assassinat de Rafik Hariri, on a pu observer la montée en puissance d'une société civile, pas forcément confessionnelle, une société civile libanaise supraconfessionnelle, qui réclamait la constitution d'un État-nation, un État, et surtout l'abolition du confessionnalisme politique. Parce que il faut bien comprendre que le confessionnalisme politique, il est posé à titre provisoire, à titre transitoire. Je crois que c'est l'article 95 de la Constitution libanaise qui précise que le confessionnalisme politique, c'est-à-dire la répartition des pouvoirs par quota confessionnel, un exemple, le ministère des Finances en général est attribué aux chiites, le ministère de. Le directeur de la Banque centrale, maronite, l'armée, le chef d'état-major de l'armée, les maronites, le premier ministre, il est sunnite. Et tout ça se décline à tous les échelons. À tous les échelons de l'administration. Donc, pour vous dire que. Là, je crois que j'ai dépassé les 20 minutes. Donc, Louis, tu vas m'arrêter. Hein. Le
Non, non, vas-y, vas-y.
Liban, a une société civile qui s'est progressivement consolidée, structurée, à la faveur de plusieurs grands mouvements. Ça a été le mouvement donc d'indépendance contre l'occupation syrienne. Ça a été le mouvement contre les poubelles, contre la gabegie, les ordures ménagères qui étaient vis-à-vis. Le Liban est un pays où il n'y a pas de service public digne de ce nom. Par exemple, l'électricité du Liban ne fonctionne pas de façon permanente. Les Libanais sont obligés d'acheter des générateurs privés. Donc ils ont deux factures pour pouvoir bénéficier de l'électricité, ce qui est aberrant quand on sait que bon, le Liban peut produire de l'électricité, mais il l'importe à la Syrie. Ou alors il l'achète au Turc, il l'achète au Turc qui l'importe par la mer. Donc c'est assez saugrenu. Donc il y a une vraie gabegie, un vrai mépris de l'intérêt général et des services, ce qui explique pourquoi on n'a jamais vraiment pu construire un État avec le sens de l'intérêt général, avec le sens d'une citoyenneté libanaise. Et or, en octobre 2019, on a pu penser que ça leur... que le Liban allait naître, que le Liban allait enfin accoucher, dans la douleur certes, mais qu'un nouveau Liban était possible, débarrassé de la corruption de cette élite prédatrice, cette élite donc héritière de la guerre civile, toute classe, tout bord confondu, toute confession confondue, encore une fois, hein. C'est pas un problème parce que c'est chrétien ou musulman, c'est vraiment l'élite en général. Et malheureusement pour les Libanais, la classe politique a réussi à exacerber, à utiliser l'arme de la peur pour contrôler sa base. C'est le cas notamment du Hezbollah. Le Hezbollah qui, à la moitié des années 2000, avait une vraie légitimité, on va dire, politique, à la fois au Liban et dans le monde arabe, parce que c'était la seule armée, la seule milice qui avait pu résister à Israël. C'est très important dans l'imaginaire arabe, où toutes les guerres israélo-arabes sont soldées par des défaites. C'est la première fois où l'armée israélienne a reculé, c'était en 2000, qu'elle a évacué des territoires sans négocier, sans aucun accord. Et puis vous avez la guerre des 33 jours de l'été 2006 où donc Israël attaque le Liban pour punir le Hezbollah d'avoir pris en otage des soldats israéliens. Cette guerre de 33 jours, c'est un désastre pour l'économie libanaise, mais le Hezbollah tient. Le Hezbollah n'est pas atteint. Non. Le Hezbollah résiste non seulement à l'armée israélienne, donc dans une logique de guerre asymétrique. Et tout cela avait profité au Hezbollah. À court terme, hein, on va dire, ça, il a pu canaliser une sorte de. Le capital de légitimité, comme héros du nationalisme arabe. On voit bien que le Hezbollah n'a pas un agenda libanais, il n'a pas non plus un agenda iranien, même s'il a des liens très forts avec l'Iran, mais il ne sait même pas, on va dire, n'est pas en mesure d'avoir un projet pour le Liban. Et donc il est considéré par beaucoup, beaucoup de Libanais, toutes confessions confondues, comme un vrai cancer qui ronge, parce que c'est un État dans l'État. Mais vous avez aussi le président du Parlement, Nabih Berri, qui est chiite aussi, qui est vraiment décrié pour sa pratique, sa pratique opaque, on va dire, pour la vie de l'économie, etc. Donc le Liban s'est enfoncé dans une crise terrible à la faveur donc de ce mouvement de révolution, de cette crise de la dette, pardon, cette crise de la dette qui était insoutenable. Les banques qui ne pouvaient plus qui avaient fermé leurs guichets, qui avaient les coupes dans les salaires, les épargnants libanais qui ne pouvaient pas retirer leurs économies. Tout ça a été vécu comme un traumatisme, une humiliation aussi, une profonde humiliation, parce que on a pensé que ce pays n'était pas une démocratie, mais une sorte de bancocratie, où c'est les banques qui font la loi. Et puis, bon, le coronavirus a fait des ravages. Et donc, le coronavirus la menace d'un chaos généralisé, agité par les principales forces politiques, ont eu raison du mouvement de contestation populaire. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une situation d'impasse. Au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth, de la double explosion en août 2020, qui a été vraiment plus qu'une goutte d'eau, c'est une vraie tempête, qui a été un vrai cataclysme. On a pensé qu'il y aurait eu un sursaut de la part de la classe politique libanaise, il n'en a rien été. Voilà. Donc je parlerai du rôle de la France aussi dans cette configuration, dans ce contexte, à la faveur des questions et réponses. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, puis je vous laisse.
Très bien. Ben, merci beaucoup Tigrane, c'était vraiment passionnant et on voit une fois de plus que vraiment l'histoire et l'actualité, la géographie, la géopolitique sont vraiment des matières qui se complètent et qu'on ne peut pas dissocier l'une de l'autre. Donc je pense qu'on va pouvoir maintenant passer aux questions et j'entamerai peut-être cette séance de questions par... Alors moi j'ai deux choses qui me questionnent. C'est vraiment le lien entre le Hezbollah et la Syrie, notamment dans le conflit syrien, quel a été le rôle véritablement du Hezbollah face en fait à la coalition occidentale, face à la Turquie, etc. Et ma deuxième question, c'est est-ce que le Liban a des prétentions sur le plateau du Golan, voilà, au nord de Israël, enfin à la frontière entre Israël et la Syrie?
Alors, première question, Hezbollah. Il faut regarder la carte pour comprendre la position, le positionnement du Hezbollah. Le Hezbollah est un allié stratégique du régime d'Assad, du régime syrien, la République arabe syrienne, mais ce n'est pas son vassal. Il est dans une logique d'un continuum qui part de Téhéran, qui passe par Bagdad. Ses armes, les armes du Hezbollah transitent par le territoire syrien, généralement par voie aérienne, donc via l'aéroport de Damas, puis par voie terrestre. Lorsque la rébellion anti-Assad a commencé à marquer des points décisifs en 2012, en 2013, mais surtout fin 2012, début 2013, le Hezbollah a eu très peur que, à son tour, il soit menacé. Pourquoi ? Parce que un des principaux axes de la. C'est-à-dire que le Hezbollah se situe à la fois dans le sud du Liban et dans la plaine de la Baïkara. Et la plaine de la Baïkara, donc à l'est du Liban, tout au nord, du nord au sud, donc à l'est du pays, c'est une sorte de continuité territoriale directe avec les régions où il y avait des hostilités, donc en Syrie, avec les régions qui étaient la cible donc de combats très violents. Et donc le Hezbollah s'est senti directement menacé par la rébellion syrienne. Il faut bien comprendre ça, quoi. Si le Hezbollah est intervenu en Syrie, ce n'est pas que pour les beaux yeux de Bachar el-Assad, c'est aussi pour défendre ses propres intérêts, la route du ravitaillement de ses armes et sanctuariser la frontière. Alors elle ne l'était pas, la frontière du nord du Liban. Pour ce qui est de ta deuxième question, alors je crois comprendre que tu parles des fermes de Sheba, c'est bien ça. Il se trouve qu'en 2000, l'armée israélienne s'est retirée de la quasi-totalité des territoires libanais qu'elle occupait, à l'exception de quelques kilomètres carrés de territoire. C'était le village de Kafr Chouva et les plaines les fermes de Shebara. Sauf qu'en droit international, il y a une sorte de différend, puisque le Liban dispute la souveraineté de ce territoire à la Syrie, et on parle d'un territoire qui est contrôlé par Israël depuis 1967. Depuis la guerre des six jours. Je crois que c'est dans l'intérêt du Hezbollah, comme c'est dans l'intérêt de la Syrie, que ce petit morceau de territoire soit reconnu comme territoire libanais. Parce que ça permet au discours du Hezbollah de se légitimer comme héros de la résistance, puisque tous les territoires n'ont pas été récupérés. Le Hezbollah est en bon droit de poursuivre la lutte contre Israël.
D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, la parole est à la salle. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, merci pour cette intervention qui était tout à fait complète et intéressante. J'aurais juste une question par rapport à la place de la France dans l'État libanais. Étant donné que donc il y a eu ce protectorat pendant de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1943, est-ce que la France a encore est-ce que la France se sert encore du Liban comme on va dire un point d'ancrage dans le Moyen-Orient ou pas? Et comme on a pu le voir avec les interventions d'Emmanuel Macron suite aux explosions au port de Beyrouth. Donc ma question c'est, est-ce que la France un point d'ancrage dans le Moyen-Orient avec le Liban, est-ce qu'il s'en sert ou c'est vraiment l'État est vraiment, enfin comment dire.
Bien, il y a une vieille histoire. Oui. Bon, je vais essayer de répondre. Il y a une vieille histoire déjà, une vieille passion libanaise en France, qui est entretenue par une historiographie qui peut prêter à débat, puisque on remonte l'alliance des Français aux Maronites libanais à Louis XI, à Saint-Louis. On attribue à Saint-Louis une lettre qu'il aurait écrite aux Maronites pour lui manifester son amitié. Et beaucoup de Maronites, à l'époque, étaient persécutés par les Ottomans, cherchaient dans la France une protection. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la France, jusque dans les années 60-70, elle maintenait une véritable influence culturelle avec la francophonie, puisque la plupart des élites étaient francophones. C'est plutôt le cas depuis les années 90. Donc le français a quand même pas mal perdu donc par rapport à l'anglais qui a beaucoup avancé. Il n'y a qu'à voir l'état de la presse francophone elle se porte mal, pareil pour les universités, les écoles. Pour ce qui est de la stratégie, La France a pu faire des choses pendant la guerre civile libanaise. Elle a pu intervenir à plusieurs reprises, jouer donc de son influence auprès des acteurs libanais, sous François Mitterrand notamment. Mais tout cela a eu un impact assez limité. Et surtout la France, je crois qu'elle s'est retrouvée véritablement hors jeu lorsque le Liban est devenu un condominium israélo-syrien. Donc c'était au milieu des années 82-83. Elle a considérablement perdu donc de son influence. Vous avez l'attentat du Drakkar en 83, qui est un vrai traumatisme pour l'armée française et les Américains, puisque on attribue cet attentat au Hezbollah. Plusieurs centaines d'officiers, de soldats, de marines et de la marine française sont tués. Pour ce qui est du présent, Emmanuel Macron a effectué plusieurs déplacements au Liban dans une atmosphère d'euphorie. Il s'est même vu pendant quelques heures, pendant une journée, propulsé président des Libanais, tant son discours et ses capacités, sa maîtrise du dossier libanais était très étendue, sa passion d'aider le Liban à s'en sortir. Donc même il y avait des pétitions au Liban pour que le Liban redevienne un mandat français. Donc bon, ça peut être farfelu, mais il y a quand même plus de 70 000 personnes qui ont signé cette pétition au Liban. Le problème, c'est que le déploiement de la stratégie de Paris s'inscrit dans un contexte de repli des États-Unis. C'est-à-dire que, voyant que Trump, l'administration de Trump, même avant, donc quitte, abandonne la région, les Français voient une fenêtre de tir, une possibilité de s'engouffrer. Sauf qu'on a bien vu que les limites de la capacité française au Liban, ils n'ont pas été capables de négocier avec les dirigeants libanais une sortie de crise et un gouvernement de transition, un vrai gouvernement de transition avec des technocrates de la diaspora du Liban. Je crois que là aussi, Paris a épuisé toutes ses cartes par rapport à ses marges de manœuvre, sa capacité à influer sur les élites libanaises, ils ont encore des élites franco-libanaises aussi qui sont assez influentes. Et puis je crois qu'aussi sur place, la France affronte un nouveau rival stratégique, qui est la Turquie. Il faut savoir que jusque il y a quelques années, le principal parrain de la communauté sunnite, c'était l'Arabie Saoudite et en moindre mesure l'Égypte. Or, les Saoudiens sont très déçus de Hariri, le fils, hein, le Saad Hariri qui était Premier ministre, et lui font un peu payer, si vous voulez, sa pusillanimité, ou en tout cas son incapacité à contenir le Hezbollah chiite. Progressivement, les Saoudiens se sont retirés de leur tutelle de la communauté sunnite, et c'est les Turcs qui sont dans une stratégie d'expansionnisme géostratégique tout azimut. Néo-ottomaniste, pan-islamiste, pan-turquiste, ça dépend du contexte, que ce soit dans le Caucase, dans la mer Méditerranée, ou même dans les diasporas turques de France et d'Allemagne. Mais en Liban, ils ont une stratégie très avérée d'expansion au nom du pan-ottomanisme, parce qu'il y a une communauté parmi les sunnites libanais, il y a beaucoup de Libanais d'origine ottomane, turco-ottomane. Il y a une minorité turcophone qu'on appelle les Turkmènes, les Turcomans. Tout ça sert de relais d'influence en fait à Ankara, et depuis quelques années, les officines de l'État turc, dont l'Agence de développement turc, les investissements turcs sont très 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 présents au Liban, et Erdogan voit d'un très mauvais œil le retour de la France au pays du Cèdre. Donc il y a une sorte d'affrontement feutré franco-turc au Liban, et une incapacité de la part de la diplomatie française seule de gérer ce dossier, d'autant plus qu'elle ne le fait pas selon les règles de l'art, puisque le Quai d'Orsay a été plus ou moins écarté de ce processus. D'après ce qu'on a pu lire, Macron a eu recours à d'autres réseaux, et cela a entretenu une sorte de cacophonie, mais en tout cas une manque de visibilité de la parole, de la voix de la France, et une difficulté à sortir de la communication, c'est-à-dire à être au-delà des grandes déclarations de bonne intention, de levée de fonds. Macron s'est retrouvé vraiment très isolé sur la scène internationale, malgré toutes ses promesses et toute sa bonne volonté. Et ça, je crois que ça nuit en fait au capital et à l'influence de la France.
S'il y a pas d'autres questions, j'aurais peut-être une seconde question. C'est à propos du rôle de la Russie. On voit qu'elle joue un grand rôle dans toute la région, voilà, en Syrie notamment, même dans le Caucase, etc. Est-ce que Vladimir Poutine a des ambitions et des prétentions stratégiques sur le Liban?
Déjà, il faut voir que, faut voir que à l'époque de la guerre civile libanaise, déjà la diplomatie soviétique était très très efficace, très professionnelle. Les Soviétiques, c'est genre que c'est les seules puissances, la seule puissance étrangère pendant la guerre civile libanaise, qui n'ont pas eu à déplorer des otages. Ça, je crois que c'est très marquant en soi. Alors que les Français, ils ont eu des otages, malheureusement, des histoires très mal finies, comme celle du chercheur Michel Seurat. Et ce n'est pas le cas des Soviétiques. Donc, ils ont une capacité à gérer vraiment le dossier libanais, à maîtriser le dossier libanais et proche-oriental, parce qu'ils ont d'excellents cadres arabisants formés à l'Institut des langues orientales de Moscou, mais qui connaissent bien le terrain et qui restent longtemps sur place en poste. Je ne crois pas que la Russie est un acteur qui a des intérêts géostratégiques très prononcés au Liban. Contrairement à la Syrie, la Russie n'a pas de prétention d'installer une base ni navale, ni même une base aérienne. Mais bien entendu, elle a des relais d'influence auprès de plusieurs partis politiques et plusieurs personnalités. Mais elle reste quand même dans une posture très, très discrète. J'en profite aussi pour parler, là c'est un autre sujet, mais c'est les perspectives du gaz offshore. Donc les gisements qui ont été découverts au large des côtes du Liban, d'Israël, de Chypre. Et tout cela offre en fait au Liban, aux Libanais, à la classe politique libanaise une nouvelle carte qu'ils peuvent mettre sur la table là où ils avaient le couteau sous la gorge. Par exemple, quand Le Drian vient à Beyrouth pour remonter les bretelles de cette classe politique libanaise corrompue. Eux, ils agitent le chiffon rouge des perspectives que peut présenter donc la découverte de ces gisements importants. Même si au large des côtes libanaises, on n'a pas d'estimation, contrairement à ce qu'on sait de Chypre et de l'Égypte. Mais il y a eu un retournement assez malin, assez machiavélien même, de la part de Nabih Berri, le président du Parlement israélien, qui, voyant qu'il n'avait plus de marge de manœuvre, a dit qu'il était prêt à négocier avec Israël le tracé de la frontière maritime dans la perspective du partage donc justement de ce gisement.
D'accord, oui, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il
Allô,
y a
ça a coupé
d'autres...
là?
Non, il y a des problèmes de... Non, c'est bon. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense que Tigran a encore quelques petites minutes à nous accorder.
Moi, j'aurais une question à poser sur l'avenir du pays des cèdres, en fait. Ah mince, il a quitté la conversation. L'intervenant.
Non, on
Oui.
t'entend bien.
Non, mais il est toujours là, l'intervenant. Je crois qu'il a quitté la conversation.
Alors, attends, je vais vérifier.
Merci, désolé.
Allô?
Oui.
Oui, excusez-moi, ça a coupé. Ouais.
Ok, moi
Oui,
j'avais une question à vous
on
poser.
t'entend
Je
bien.
voulais dire merci pour cette intervention. Merci pour tout. Et je voulais vous poser une question sur l'avenir donc du Liban. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a un vent assez défavorable qui commence un peu à souffler sur le Hezbollah, à cause notamment de la pression internationale récemment. Et alors qu'auparavant, il était plutôt largement soutenu par les Libanais, comme vous l'avez souligné, suite à leur victoire contre Israël en 2006. Et donc ma question vraiment porte sur les issues possibles pour le Liban et il y a une théorie dont je voulais vous faire part, en fait comprendre enfin, si c'est plausible ou pas, qui commence un peu à fuser en ce moment, ce serait celle d'une alliance des Maronites avec les sunnites et les Israéliens pour intervenir contre les chiites et ainsi un peu se sauver aux yeux de la communauté internationale et recevoir l'aide qu'ils attendent.
Je suis un peu prudent avec ce genre de théorie, surtout que les maronistes sont loin d'apparaître en rang uni. Mais il est évident qu'il y a un canal de communication avec Israël. Surtout que, comme on l'a vu, les Libanais ont compris qu'ils ont intérêt à se mettre d'accord avec eux dans la perspective du partage des ressources offshore, de gaz offshore, du développement justement de ces gisements. Ils auront besoin du savoir-faire israélien, puisqu'Israël a un vrai savoir-faire. Je crois que le Hezbollah est dans une situation de plus en plus difficile, puisque il n'est pas, il est de plus en plus isolé, si vous voulez, du reste des Libanais, mais il conserve, pardon, encore des moyens coercitifs très forts et une base sociale très forte, mobilisable. 60 000 personnes au moins mobilisables, parce que beaucoup de familles dépendent directement du Hezbollah, non seulement pour, en général, pour leur vie, pour leurs ressources, leurs revenus. Donc tout ça montre que le Hezbollah a encore une force de nuisance. Bon, il y a eu un assassinat la semaine dernière d'un intellectuel libanais chiite, qui était très critique vis-à-vis du Hezbollah. Toutes les voix se sont. Tout le monde s'est tourné vers le Hezbollah, pointé du doigt le Hezbollah. Bon, il y a une enquête, l'enquête qui est en cours, mais je pense que, à l'évidence, le Hezbollah est de plus en plus sur la défensive. Mais peut-être aussi d'autres forces, d'autres puissances ont besoin de créer davantage de tensions, justement, pour affaiblir le Hezbollah en procédant à ce genre d'attentat. Donc, c'est des choses qu'on a vues au Liban, des attentats sous faux pavillon. Mais pour revenir à votre question, il faut rester très prudent sur la nature des alliances, qui sont des alliances essentiellement tactiques et qui ne sont pas motivées par sur de la base confessionnelle. Vous voyez, c'est plus des relations d'intérêt personnel.
D'accord, merci beaucoup. Et par rapport du coup à l'avenir du Liban, enfin comme ça a été enfin pas trop abordé, je voulais savoir ce que vous pensiez, enfin qu'est-ce que même si c'est comme vous dites les théories, on peut pas trop enfin prévoir et être prudent effectivement, mais rien que par rapport, je veux dire avec l'Amérique, le
Bah,
niveau.
le Liban, c'est quoi ses ressources? On l'a vu, la principale ressource du Liban, c'est les Libanais. Voilà, c'est un pays qui produit des cerveaux, sauf que tous ces cerveaux-là, ils quittent le pays massivement. C'est-à-dire que c'est les meilleures universités du Moyen-Orient à la base, hein, une presse, une tradition culturelle très, très forte, très riche, sauf qu'ils ne trouvent pas leur place dans leur pays, puisqu'il y a une telle corruption. Une telle gabegie que tout cela les écœure. Et donc la force du Liban, c'est sa diaspora. Sauf que le problème, c'est est-ce que la diaspora libanaise va être en mesure de se structurer? En plus, quand on parle de diaspora libanaise, il faut comprendre que c'est une diaspora qui remonte à l'époque ottomane. Ça veut dire qu'entre-temps, ils sont multipliés démographiquement parlant, c'est 20 millions de personnes, c'est énorme. C'est 4 fois plus que le Liban, que le Libanais du Liban, c'est-à-dire la diaspora libanaise. Vous avez. L'ancien président brésilien qui est d'origine libanaise. Vous avez donc énormément de Libanais en Amérique du Sud, en Amérique au Canada, dans le Golfe, en France, ils sont quelques dizaines de milliers. Et cette diaspora, elle a des cadres, elle a beaucoup, beaucoup de cerveau. Est-ce que ces gens-là, ils seront en mesure de servir leur pays d'origine? C'est la grande question que je me pose. C'est le rôle de cette diaspora dans la reconstruction du pays.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.